France Musique.
Merci beaucoup Lionel Esparza, on vous retrouve demain pour un nouveau Classic Club.
1, 2, 3, pas. Hein ? Encore une fois ?
Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui pousse des rugissements. Dernière thématique de cette quatrième saison du Cri du Patchwork, et nous parlerons des animaux, ou plutôt de ce qui fait l'animal et de son rapport à la musique et au son. Et on commence aujourd'hui avec Bastien Gallet, philosophe et écrivain avec qui nous ferons un point sur les fantasmes et les réalités d'une musique dite animale, au travers du prisme de nombreuses tentatives de réunion entre nos désirs humains et l'univers sonore animal. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, une jungle de sons produits par des gens. Et comme chaque mardi, un son qui se noie. Le Cri du Patchwork, thème numéro 38, épisode numéro 1, séquence numéro 1.
Hé, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. Les baleines. Je dis bien les baleines, parce qu'il faut déjà identifier l'espèce de baleine que l'on écoute. Car oui, il y a ce joli chant qui nous plonge immédiatement dans les fonds marins. Mais il y a aussi ça. Ou encore ça. Et on a une forte impression de se retrouver devant un fake. Comment des animaux peuvent créer des sons que l'on pourrait qualifier d'électroniques, car possiblement reproductibles par un instrumentarium électronique ? C'est sans doute pour cela que les baleines fascinent les musiciens, parce qu'elles créent des sons totalement inouïs pour communiquer. Klaus Schulze, dans Whales, use de chants de baleines comme de voix humaines, en écho, pour raconter une chasse à la baleine, mixant électronique, sons réels et sons synthétiques de baleines numériques.
Thank you.
communiquer l'humain et le cétacé, cela paraît tentant. On a tellement l'impression que ces mastodontes marins parlent avec leurs courbes sonores si caractéristiques. Jim Nolman est à l'origine d'un projet un peu fou, Interspecies, ou comment entrer en communication directe avec les animaux par la musique. Jim Nolman a alors établi tout un vocabulaire propre aux baleines pour pouvoir discuter avec elles. En voici un exemple et on se demande vraiment si ce n'est pas un fake, encore une fois. Jim Nolman et sa guitare communiquant avec des orques. On n'aurait pas pensé à cet instrument pour imiter des baleines, mais en fait ça fonctionne bien. L'autre instrument favori des musiciens pour transposer les sons des cétacés est la contrebasse. En jouant avec les sons harmoniques ou soufflés par le frottement sur le chevalet, en accentuant le bourdonnement de la corde la plus grave, la contrebasse est capable de donner l'illusion d'une baleine. Et c'est parfois bluffant. Comme le travail de Bernard Abeille, dans son disque simplement appelé « Baleine et contrebasse ». Ça a le mérite d'être clair. Et comme il est stipulé dans le disque, tous les sons proviennent exclusivement d'une contrebasse. Rien que de la contrebasse. Bon, il y a quand même une bonne dose de réverb. Ça aide pas mal et ça nous plonge tout de suite dans une ambiance à la Grand Bleu. Efficace. Pour trouver une contrebasse sans artifice, il suffit de se tourner vers Charlie Haddon. Pas de réverb, pas d'effet, mais une contrebasse à nu dans cette introduction de Song for the Whales, édité dans un album posthume en 2014. Et là, la contrebasse ne joue pas uniquement le rôle d'imitatrice de la baleine. Non, Charlie Haddon dépasse la mimésis pour créer un vocabulaire sonore bien à lui, qui évoque de manière stylisée l'univers des cétacés. Thank you. Le chant de la baleine peut ainsi devenir plus un prétexte à composer qu'un objet sonore à imiter. Le compositeur et guitariste canadien Tim Brady, dans son chant des baleines, ne laisse que très peu de place à ses imitations animalières. Il va chercher dans la matière sonore des cétacés le vocabulaire qu'il pourra travailler avec son instrument. De son glissé et éloigné au grognement proche, Tim Brady cétacise sa guitare en évitant les écueils du genre. Thank you. Tim Brady termine par une suite de sons harmoniques joués à la guitare pour symboliser le chant des baleines. Alors ça m'a fait penser immédiatement à un album curieux de Hans Kennel, entièrement réalisé avec des cors des Alpes, trompes gigantesques qui ne jouent que sur la série des harmoniques. Et dans son Waves and Whales, les courbes d'harmoniques se multipliant et s'entrecroisant déforment, certes, le chant des baleines, mais arrivent à suggérer les polyphonies libres des fonds marins. Découvrir la part animale d'un instrument. Avec un cor des Alpes, cela paraît peut-être plus évident qu'avec une harpe. Et pourtant, Isabelle Olivier, improvisatrice, crée des râles, des frottements, des souffles, des chants avec sa harpe, comme si elle devenait animale. Bien loin de l'image surannée et éculée de l'instrument. Quelque part, tous ces artistes nous alertent sur ces chants incroyables, ces matières sonores totalement dingues qui pourraient bien un jour disparaître, faute de prise de conscience écologique réelle. Parmi les premiers à participer à ce cri d'alerte environnementale, John Taverner et Alan Hovhannes composent tous deux une œuvre autour des baleines. Alan Hovhannes, dans And God Created Great Whales, composé en 1970, intègre dans un orchestre des enregistrements de cétacés réalisés pour l'occasion, comme si le mastodonte symphonique répondait au mastodonte marin. On retrouve cette prise de conscience écologique dans une des œuvres les plus jouées aujourd'hui de George Crumb. Composée en 1971, Vox Baleinae, les voix des baleines, utilise le vocabulaire des contrebasses de tout à l'heure, sans pour autant tomber dans la simple transposition sonore des chants de baleines sur les instruments de ce trio atypique. Flûte traversière électrifiée, violoncelle et piano amplifiés, exigeant par ailleurs le port d'un masque pour chaque interprète. Une œuvre qui flotte, comme cette mélodie sifflée de violoncelle qu'aucune baleine ne pourrait chanter, mais qui nous plonge dans le larynx du cétacé.
Vous voyez qu'on y arrive, hein? C'est pas compliqué quand même.
France Musique. Le cri du patchwork, Clément Lebrun. Bastien Gallet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, écrivain et éditeur aux éditions MF. Et je vous invite aujourd'hui pour parler de musique animale, ou peut-être plus de la place de l'animal dans la musique, ou comment la musique peut influer sur le monde animal. Déjà, Bastien Gallet, est-ce qu'il y a une musique animale?
Alors, je ne sais pas si c'est une bonne question.
Oui, merci.
En vérité, non, mais de parler en ces termes, puisque immédiatement, on dirait non. Si la musique, c'est... une organisation préalable, disons, des hauteurs, des durées, des timbres, des rythmes extrêmement variés. Si on parle en ces termes, effectivement, il n'y a pas de musique animale. Mmh. Ça n'a pas de sens même de poser la question. Donc peut-être bon moyen ou la bonne méthode serait plutôt de commencer par démusicaliser les sons animaux et de se dire que il y a peut-être là une musique, on ne le sait pas. L'important est d'écouter et d'écouter ces sons dans leur étrangeté.
Oui, parce que qui dit musique dit de toute façon un anthropocentrisme, c'est-à-dire que c'est l'homme qui entend les sons des animaux comme musique selon ses propres critères.
C'est ça, il projette effectivement ses gammes, ses modes, ses timbres sur les animaux. Il le fait aussi pour pouvoir ensuite musicaliser les sons animaux, où on va s'approcher de la musique pour pouvoir composer à partir d'eux, hein, comment inclure finalement l'animalité au sein du système musical. Mais en revanche, si on démusicalise, si on s'intéresse à l'étrangeté, on découvre autre chose. Alors, ne disons pas que c'est pas de la musique, disons que c'est une musique qu'on ne connaît pas. Hein. David Rothenberg, ce grand improvisateur qui a beaucoup improvisé avec des animaux, parle de musique alien. Voilà.
C'est
de la musique, hein, semble-t-il, puisque je peux improviser avec eux, mais c'est de la musique que je ne connais pas, qui m'est incompréhensible et que je vais apprendre à connaître en jouant avec. Bon, et là, je pense que ce sera un bon principe de travail et une bonne méthodologie pour aborder cette question-là.
Alors que souvent, comme vous le disiez, c'est qu'on va faire rentrer dans un système donné, même une esthétique donnée. Je pense par exemple à Clément Jeannequin avec le chant des oiseaux, où on prend des modules d'oiseaux, on les intègre dans une esthétique donnée, celle du XVIe siècle. Et ça a été toujours comme ça, c'est-à-dire comment on contraint finalement la possible musique étrange des animaux à devenir de la musique humaine.
C'est l'exotisme, on a fait ça aussi avec d'autres cultures humaines, hein, pendant très longtemps, avant de s'y intéresser pour elles-mêmes en fait. Et là, ce qui est nouveau, c'est que des musiciens, des compositeurs s'intéressent aux sons animaux pour eux-mêmes. Alors, est-ce que c'est encore de la musique? Je dirais que c'est de l'art sonore, en un sens, hein, qui peut devenir musique. Tout dépend de l'interaction, parce que ça, chaque interaction, chaque relation est forcément singulière, doit s'inventer sur le moment, en quelque sorte. Hein. Puisqu'on a affaire, non pas à la musique en général, ou à des sons animaux en général, mais à des individus qui vont jouer avec ou pas, résister, produire quelque chose d'autre, qui va être l'interaction entre le musicien et l'animal, ou le compositeur qui va peut-être modifier son langage pour intégrer ses sons. Là, je pense à Messiaen, bien sûr, parce que bon, Messiaen a beaucoup composé à partir des chants d'oiseaux, et c'était également un ornithologue réputé. Mais on constate une évolution dans son écriture. Au début, ces chants d'oiseaux sont assez simples. Et puis, plus il devient ornithologue, plus il les écoute, plus il les transcrit, plus il travaille sur ces sons, plus il les connaît. Et plus il va rendre leur étrangeté. Et plus il va se rendre compte de leur bizarrerie sonore. Et c'est fou, puisqu'on entend ces oiseaux comme on ne les entend pas. Parce qu'on les entend vraiment, vous voyez. En les écoutant vraiment, il nous fait entendre des oiseaux comme on ne les entend plus, puisqu'on les entend à travers des projections, des paradigmes, des mythes, la beauté du chant du rossignol. Mais si vous écoutez un rossignol, c'est pas beau, c'est étrange, c'est bizarre, c'est baroque, c'est absurde.
C'est-à-dire qu'il sort du modèle lui-même de l'oiseau. Et un autre compositeur justement qui travaille beaucoup sur le modèle animal, c'est François Bernard Mache, qui lui aussi pioche vraiment dans l'enregistrement, contrairement à Messiaen, où Messiaen transcrit. Mais Mache, lui, va carrément prendre l'enregistrement pour devenir le modèle d'une composition complète.
Oui, c'est aussi d'ailleurs une des thèses de Mache, hein, qu'il y a de la musique animale, qu'il y a des universaux, on pourrait dire, musicaux, qui traversent les espèces, donc ils sont transpécifiques, quoi. C'est une de ses grandes thèses, et qui illustre pas, mais qui le met en œuvre, dont il fait l'expérience dans certaines pièces musicales, notamment dans celle où il fait interagir effectivement une bande magnétique. À l'époque, c'était encore une magnétique, avec des oiseaux et des chants d'oiseaux et des musiciens. Et là, son écriture, à nouveau, comme chez Messiaen, mais différemment, va s'adapter, composer avec cette étrangeté irréductible qui est le chant d'oiseau. Et en même temps, il ne s'agit pas non plus seulement de les suivre. Hein, il s'agit de faire interagir un modèle compositionnel qui est comme celui de Mache, puisqu'il y a une écriture, hein, et puis un autre qui est celui des oiseaux.
Ça s'appelle Sopiana, ça a été composé en 1980 par François Bernard Mache pour flûte, piano et bande magnétique. Thank you. Un extrait de So Piana, une composition de 1980 de François Bernard Mache pour flûte, piano et bande magnétique, où là, Bastien Gallet, on entend vraiment le modèle, qui est vraiment le chant d'oiseau enregistré sur bande magnétique, et on voit comment François Bernard Mache fait coller sa musique au chant d'oiseau. Alors après, on ne sait plus très bien, est-ce que c'est le chant qui influe sur son esthétique, par exemple sur son harmonie, parce qu'on entend bien le piano qui va chercher des harmonies qui ne sont pas du tout dans le chant d'oiseau, ou bien est-ce qu'il arrive à contraindre le chant d'oiseau à rentrer dans son esthétique. Là, il y a vraiment une dialectique qui se crée entre les deux mondes.
Oui, une dialectique, c'est juste, il ne contraint pas le chant d'oiseau, il ne cherche pas non plus à l'imiter. On est dans un rapport de frottement entre deux mondes qui restent étrangers, c'est ça qui est très beau dans cette pièce, mais qui sont vis-à-vis et qui se répondent de temps en temps, qui s'approchent, qui s'éloignent. C'est comme deux êtres qui apprennent à se connaître, en fait, de loin, à distance, et qui tentent des choses. Et alors, il faut rappeler quand même que, bon, là, il s'agit de l'Hippolaïs ictérine, de la Rousserolle Verderolle, deux oiseaux
qu'on a tous reconnus,
que Messiaen n'a pas beaucoup transcrit, d'ailleurs, dans ses compositions. Et que, comme beaucoup d'oiseaux chanteurs, ce sont des oiseaux qui apprennent à chanter. Le chant chez eux n'est pas inné, il est l'objet d'un apprentissage social, on pourrait dire culturel. Ils apprennent en imitant les congénères, les membres de la même espèce. Donc ils imitent et peu à peu, ils façonnent leur chant. Et individuellement, les variantes sont assez grandes. Entre deux membres de la même espèce, on peut avoir un oiseau qui chante mal ou qui a un petit répertoire, et puis un oiseau qui a des centaines de chants dans son répertoire, qui peut diviser des séquences existantes et les recomposer à sa manière, donc créer un style, on pourrait dire, individuel, qui peut réorchestrer, on pourrait dire, des chants d'autres espèces. Donc il y a une très grande variété du fait de cet apprentissage, du fait que le chant n'est pas inné, comme c'est le cas de toutes les espèces animales, à l'exception des hommes, des baleines et des dauphins, a priori. Donc les primates n'apprennent pas à chanter. À la différence des humains qui sont les seuls primates qui apprennent et qui ont une vraie vie sociale musicale en ce sens. Quoi.
Là, évidemment, quand vous parliez d'orchestration, de l'oiseau qui orchestre son chant, il l'orchestre aussi par rapport à son environnement. C'est-à-dire qu'un oiseau, il n'est pas seul, il ne fait jamais de solo quelque part. Il est toujours lié à un environnement sonore, qu'il soit celui de la nature ou bien celui urbain, enfin celui de l'homme. Là, on peut voir aussi qu'il y a une forme de... Alors, c'est Bernie Krause qui parle de ça, du grand orchestre animal. Mais finalement, un animal n'est pas lui-même musicien sans ce qui l'entoure.
Oui, alors là, si on parle d'individu oiseau, il y a une individualité, il y a, on pourrait dire, un travail conscient, on pourrait dire, de son chant, puisqu'il chante pour la femelle, donc il y a une dimension aussi qui est liée à la sélection sexuelle. Il faut être le meilleur reproducteur, donc chanter le mieux. Donc il est conscient de sa différence avec d'autres, on imagine. En revanche, si on prend le monde animal et les voix animales en général dans un environnement particulier, dans un biotope particulier, là on constate effectivement, qu'on l'a bien montré Bernie Krause, qui est donc aussi bioacousticien, constate que chaque animal, on pourrait dire, a une zone fréquentielle particulière et effectivement, ils ne se couvrent pas les uns les autres. Donc on peut avoir comme ça l'illusion, en tout cas l'apparence, d'une sorte d'orchestre animal, puisque chacun occupe une niche sonore ou fréquentielle particulière. Bon, et ça, on imagine que le biotope aussi, en tant que système, on pourrait dire acoustique, obéit aux lois de l'évolution. Donc, effectivement, un animal qui serait couvert, dont la voix serait couverte, ne pourrait pas survivre. Donc, ceux qui survivent sont ceux qui ont réussi à défendre aussi leur niche fréquentielle par rapport
entendre,
à d'autres.
En fait, ouais.
Donc, il y a aussi une guerre des voix, du point de vue-là. Puis, au bout du compte, on a l'impression d'une harmonie, mais qui est peut-être un peu abusive. ou illusoire. Et bon, et ce point de vue-là, malgré tout le respect que j'ai pour Bernie Krause, cette métaphore de l'orchestre me semble très, très abusive, effectivement. Et puis surtout, le travail qu'il a fait avec le compositeur américain Richard Blackford, qui orchestre très classiquement, au fond, les chants d'animaux, me paraît très problématique, puisque là, on en a vraiment l'idée voilà, d'une projection, d'un concept musical humain sur le monde animal. Et surtout, dans les instruments de Bernie Krause, il choisit très bien son point d'écoute. Hein, on sent qu'il choisit le point d'écoute duquel, à partir duquel, l'harmonie sera la plus audible. Il choisit, il met le micro là où on aura le son le plus iffy possible. Et surtout, tous les sons seront disposés à égale distance de manière à produire l'illusion d'un orchestre où chaque animal s'entend avec son voisin, comme s'il y avait une sorte d'harmonie animale. Un peu comme dans le livre de la jungle, vous voyez.
Alors, Bastien Gallet, à propos de livre de la jungle, vous propose d'écouter un extrait de The Great Animal Orchestra, donc une pièce de Richard Blackford composée sur des sons proposés par Bernie Krause, composée en 2014. Et puis, on va enchaîner direct avec une pièce de Thomas Tilly, qui a été souvent citée dans cette émission, Script Géométrie, pour voir une autre pensée de ce qu'on pourrait appeler paysage sonore, en tout cas d'une musique qui pourrait être un art sonore animal. Enchaîné, on avait ici The Great Animal Orchestra, une pièce de Richard Blackford et Bernie Krause, composée en 2014, et ici un extrait de Script Géométrie, un disque de Thomas Tilly, qui est une sorte de documentaire, même si ce n'est pas la forme documentaire, d'un voyage qu'il fait régulièrement en Guyane française pour y enregistrer différentes espèces animales. Et puis là, on a vraiment un morceau où il place un micro à un endroit et on ne fait qu'écouter finalement ce que le micro écoute. Alors là, on est complètement à l'envers de la pensée de Bernie Krause, Bastien Gallet. Ici, on est vraiment plus dans un art sonore qui se propose à nous, même si Thomas Tilly pourrait nous dire qu'il n'y a pas d'art sonore, il n'y a pas de musique ici. On est vraiment dans le fait que il y a des sons les uns avec les autres qui s'organisent d'une manière ou d'une autre.
Oui, il n'empêche qu'il a choisi cet enregistrement, il a choisi de le diffuser, il aurait pu le laisser de côté ou l'effacer. Donc, cet enregistrement a quand même un intérêt pour lui, qui est un intérêt esthétique, on pourrait dire. Et effectivement, on entend un espace de résonance dans lequel on devine différentes voix, mais qui sont comme pris dans ce son, dans cet étrange faux bourdon, ce drone. C'est, on est effectivement aux antipodes de Richard Blackford. Il n'y a pas d'orchestration ici, et on est plus proche effectivement du sentiment qu'on peut avoir, de l'écoute qu'on peut avoir dans beaucoup de régions du monde. En fait, on a des bruits de fond divers. Il est très difficile de trouver les points d'écoute où les bruits de fond disparaissent. Donc, on doit toujours faire avec finalement ces bruits de fond. Hein, oui. Et les animaux aussi font avec,
qu'ils soient humains ou non. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on est dans une forêt qui semblerait un peu épargnée par l'humain, mais l'animal aujourd'hui fait avec l'humain, avec les sons de l'humanité. C'est-à-dire que moi, je pense à l'autoroute qui passe à côté d'une forêt, fait partie de cet espace sonore, et là, l'oiseau s'inscrit avec cette autoroute.
Oui, comme les rossignols à Berlin, qui sont très heureux de chanter au milieu des voix humaines, qui s'en réjouissent beaucoup. Il y a même certains cas recensés de rossignols qui peuvent chanter dans des lieux très bruyants. Des carrefours d'avenues, par exemple, et qui font l'effort de se faire entendre malgré tout, comme si leur chant pouvait parvenir, si vous voulez, à couvrir ce bruit de fond irrémédiable. Et alors là, peut-être faut revenir sur les travaux très importants de William Cronon, l'historien américain de l'environnement, à propos autour du concept de Wild Tea. Leur chant pouvait parvenir, si vous voulez, à couvrir ce bruit de fond irrémédiable. Et alors là, peut-être faut revenir sur les travaux très importants de William Cronon, l'historien américain de l'environnement, à propos autour du concept de wilderness, ce qui est encore en jeu quand même, je pense, dans les enregistrements de Bernie Krause, ce qu'on a pu voir à la Fondation Cartier, sa grande exposition sur l'orchestre sur les animaux, où il faisait entendre l'avant et l'après. Quoi. Il y a avant l'homme et puis il y a après l'homme, et au fond, ce que fait l'homme, c'est qu'il impose le silence aux voix animales. Et ce que montrait bien William Cronon, c'est que le concept de wilderness, de sauvage ou de monde sauvage, est un concept qui est complètement artificiel, qui est un concept culturel en fait. Il n'existe pas de monde sauvage avant le 19e siècle aux États-Unis. On invente un monde préservé, vierge, duquel on a débarrassé les Indiens. On invente les parcs nationaux, on les constitue juste après avoir débarqué les Indiens de ces régions. Et on a construit comme ça cet espace artificiellement vierge et sauvage qui est devenu l'espace, on pourrait dire, modèle, étalon de la vie naturelle et de la nature en général. Cronon montre effectivement qu'il y a, en vérité, il n'y a aucune opposition radicale entre nature et culture, entre vie sauvage et vie non sauvage, et que le sauvage est partout. Et que la seule manière, si vous voulez, de respecter le sauvage, c'est de l'honorer partout où il est, c'est-à-dire partout où nous sommes nous. Puisque le sauvage est partout où on ne l'attend pas, ce qui a bien montré Baptiste Morisot dans son livre sur les loups, les diplomates. Les loups qui arrivent jusqu'à nous dans les interstices de la civilisation, la domestication des espaces naturels, c'est le sauvage qui revient, et le vrai sauvage, justement. Celui-là qui habite avec nous, le sauvage est là, à portée de la main, il n'est pas à Yellowstone ou au Yosemite, en vérité. Bon, et Krause fait comme si les animaux ne pouvaient exister et être préservés qu'à l'état sauvage, c'est-à-dire hors de la main de l'homme, loin de l'homme, à distance, et qu'il fallait les regarder, les écouter de loin comme des choses belles, et que seul l'art pouvait nous permettre d'y accéder. Bon. En fait, c'est une illusion grave et problématique, en vérité, d'affirmer cela.
Et contre cette muséification, finalement, peut-être des animaux qu'on pourrait voir de loin, il y a tous les travaux de ces artistes qui vont observer de près justement l'organisation de groupements animaux. Alors on parlait des loups qui créent une hétérophonie incroyable avec leurs hurlements lorsqu'ils sont en meute, mais il y a des travaux comme ceux de Robin Meyer ou Thomas Saraceno qui sont des artistes qui vont travailler vraiment sur comprendre l'organisation d'individus microscopiques en général, parce que là on est plus de l'ordre de l'insecte, pour voir comment une structuration sociale peut devenir un modèle musical. Et justement, Bastien Gallet, je vous propose d'écouter tout de suite un extrait d'une exposition donnée par Thomas Saraceno. Ça s'appelle How to Entangle the Universe in a Spider Web, où là on entend finalement l'organisation d'araignées. Un extrait de The Cosmic Dust Spiderweb Orchestra, une installation qui était présente dans l'exposition How to Entangle the Universe in a Spiderweb de Thomas Saraceno. Et ici, Bastien Gallet, on entend en fait une organisation entre des êtres qui sont là, des araignées. On en est à des milliers d'araignées.
Oui, il y a deux installations dans cette exposition. Une installation donc sonore où on peut entendre enregistrer donc par Thomas Saraceno des sons d'araignées, pas un orchestre d'araignées, mais une installation d'araignées effectivement, et le son résultant de toutes ces araignées enregistrées ensemble. Et on peut se demander s'il y a d'ailleurs un son émergent qui serait plus que l'ensemble des sons individuels de ces araignées. Il y aurait une propriété nouvelle, on pourrait dire, qui serait la propriété de l'individu collectif, serait différente, qui serait non trouvable dans ses composants, dans les individus qui composent cet ensemble. Et ce qu'on trouve aussi dans l'autre installation de cette exposition, Quasi Social Musical Instrument, qui en fait, est de multiples toiles entrelacées, construites donc, par 7000 araignées des Parawixia bistriata, qui passent à chaque fois plusieurs mois donc, à envahir l'espace muséal pour y faire leurs toiles. Donc c'est très étonnant de voir cette toile, la complexité de cette toile, qui est une œuvre d'art en un sens.
Oui, de toute façon, déjà en plastique, mais aussi là on s'en rend compte sonore, c'est-à-dire que l'action des araignées comme des fourmis, comme des abeilles, alors ça c'est plutôt du côté de Robin Meyer, qui est un artiste qui sera exposé à la Pop très prochainement, c'est quand même d'observer une structuration sociale entre des êtres microscopiques, enfin des petits êtres, et de voir comment on peut avoir une résonance musicale.
Oui, c'est une production collective où tout s'assemble pour produire quelque chose qui est impossible sans cette collectivité et qui est une propriété de la collectivité. Bon, là, on est dans les concepts qui sont ceux que Varela, ce grand neurologue chilien, a développé dans les années 70, le concept d'autopoïèse, d'émergence, quelque chose émerge qui n'était pas présent au niveau antérieur. Quelque chose de nouveau émerge du fait de cette organisation, du fait de cette collectivité, du fait de cette action collective.
Là, on est finalement dans quelque chose de l'ordre de l'inné, quelque part, pour ces animaux qui vont... Alors, on parlait tout à l'heure de l'apprentissage de l'oiseau qui apprend à chanter, mais là, par exemple, pour faire une toile, l'organisation des fourmis, l'organisation des abeilles, là, en l'occurrence, est-ce qu'on peut parler d'une esthétique de ces représentations-là ?
C'est nous, qui, évidemment, qui attribuons ces qualités-là, évidemment, à ces objets. Si l'oiseau peut être conscient, il faut du plaisir à chanter, et qu'il y a peut-être une créativité consciente chez lui, évidemment, ce n'est pas le cas des fourmilières, des regroupements d'araignées, des groupes d'insectes. Donc, on projette des qualités qui sont pour nous esthétiques, mais qui néanmoins existent dans les objets en question. Elles ne sont pas subjectives, elles sont objectives, ces qualités. Elles sont présentes dans les objets.
Oui, mais Bastien Gallet, ce qu'on peut dire finalement, c'est que même s'il y a certains animaux qui vont apprendre, d'autres qui ont peut-être conscience qu'ils sont en train de créer quelque chose, la plupart peut-être n'ont pas conscience, il y a quand même des animaux qui vont réagir à un stimulus qui va être, par exemple, extra, même de leur espèce. C'est-à-dire, là, on a pas mal d'exemples d'artistes qui vont communiquer avec l'animal et voir que finalement, l'animal écoute une autre proposition pour réagir en fonction.
Effectivement, il y a les travaux de Robin Meyer et Thomas Saraceno et d'autres artistes qui font apparaître cela, c'est-à-dire qui proposent des installations, effectivement, qui sont des installations plastiques et sonores qui vont conditionner et influencer, on pourrait dire, les comportements collectifs de ces animaux, donc des araignées, des lucioles ou des criquets, des fourmis chez Robin Meyer. Et ce qui est passionnant, si vous voulez, c'est qu'il les conditionne jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'ils produisent des stimuli divers qui vont orienter les comportements collectifs, mais sans jamais parvenir à les contrôler complètement. Vous voyez, et dans la différence, dans l'entre-deux entre l'animal, on pourrait dire, à l'état sauvage, et l'animal ici orienté, il y a quelque chose qui est très beau et qui est la manière dont le collectif va réagir à ces stimuli nouveaux. Il y a un jeu qui est très beau et qui serait presque le jeu... ce qu'on pourrait appeler l'individuation. On voit tout à coup, en empêchant ou en réorientant des processus collectifs, on voit comment ce groupe va se réindividuer ou se redisposer, se reconstituer sous l'effet des influences.
Là, on a des animaux qui peuvent être contraints et qui vont créer justement des modèles sonores qu'on ne pourrait peut-être pas observer dans la nature même. Mais on a aussi des musiciens qui s'amusent à improviser avec des animaux. Et c'est le cas de David Rothenberg, qui lui est musicien improvisateur, on en parlait au tout début de l'émission, et qui là va se retrouver à improviser avec un rossignol. Et là, par exemple, avec une baleine, ça revient à notre sonothèque de tout à l'heure, c'est-à-dire que là, l'animal entend et veut rentrer en communication. Est-ce que là, on revient à cet écueil que la musique est un langage, Bastien Gallet?
Ah, je ne sais pas si l'animal veut, il ne veut rien. Il se trouve qu'il est confronté à des sons qui viennent d'ailleurs et qui s'adressent à lui, et qui s'adressent à lui de manière à ce qu'il puisse les entendre. D'ailleurs, David Rothenberg est un universitaire et un représentant de l'écologie profonde, de la deep ecology. Il a écrit avec Arnonès le grand livre fondateur de l'écologie profonde, publié donc d'abord en norvégien, puis en américain avec lui. Écologie, communauté, style de vie. Donc il défend des positions assez claires de ce point de vue. Mais ce qui est très passionnant dans son travail, c'est qu'il montre effectivement que la seule manière de comprendre l'étrangeté des sons, des chants animaux, c'est de jouer avec eux. Mmh. C'est pas de chercher forcément à les analyser de l'extérieur en utilisant des modèles qui sont souvent des modèles anthropocentrés, et notamment des modèles musicologiques trop centrés sur la musique humaine, mais d'essayer de jouer, d'interagir et de produire des sons qui pourront en produire d'autres. C'est dans ce jeu-là que quelque chose peut se produire. Et c'est là où on revient à Cronon. Comment habiter, au fond, un monde où il y a du domestique et du sauvage? Comment habiter ce monde et comment ne pas le contrôler, mais habiter précisément en jouant avec les soins animaux?
Alors, Bastien Gallet, je vous propose d'écouter Inside the World, donc Whale Music de David Rothenberg. Thank you. un extrait de Well Music de David Rothenberg, où le musicien improvisateur se retrouve vraiment en communication, à déclencher en tout cas des réactions avec des cétacés qui l'écoutent réellement. Merci beaucoup Bastien Gallet d'être venu évoquer tous ces petits points, parce que ça peut être encore plus vaste, cette question de l'animalité, de l'animal et de son lien à la musique humaine. En tout cas, on peut suivre vos activités d'éditeur aux éditions MF sur le site edition-mf.com, et le 27 juin prochain, à la librairie Le Mont en l'air, ce sera la sortie, une soirée de sortie du livre qu'on avait présenté ici même dans l'émission, s'appelle The Most Beautiful Ugly Sound in the World, à l'écoute de la Arch Noise, à l'écoute de la Noise, un livre de Catherine Guedde et Pauline Nadrini. De même, Rémi David Appa, c'est un livre qui est sorti dans la collection Invention, également chez Éditions MF. Merci beaucoup Bastien Gallet, et j'espère à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Et bonsoir Antoine Berland.
Portrait sonore. Antoine Berland.
Faites un son aigu.
Que pensez-vous de la musique? Musique, c'est ma vie.
Bonjour.
Dites bonjour. Bonjour.
Portrait sonore numéro 74. Des chansons que j'arrive à détester. Buenos Aires, Argentine, février 2018.
Chanson que mes parents me chantaient quand j'étais petite, le matin. Buenos días, señoría, mantantirulirula, la 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 la, mantantirulirula, pour me réveiller le matin. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Il y a des chansons aussi que j'arrive à détester quand ils deviennent très populaires. Et tu peux les écouter tous les jours, tous les temps, dans la radio, dans la rue, tout le monde les chante, comme Despacito. Ça dit Despacito, suave suavecito, la 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 la. Tout le monde chante ça, c'est la merde, je la déteste. Mon couleur préférée, c'est le violet. Mon couleur préférée, c'est le violet. Mon couleur préféré, c'est le violet. Quien va cantar, quien va soñar.
Bonjour.
Quien va cantar la melodía de l'amour. Quien va cantar, quien va cantar. Quien va cantar cuando ya no cante el cantor.
Fin de notre premier épisode du Cri du Patchwork sur l'animal. Merci à Perrine Mingui aux commandes et à la réalisation du Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui la technique Philippe Mercher. Merci à Flora Sternadel, toujours à l'affût du moindre son. La semaine prochaine, nouvelle étape dans la thématique animale, en compagnie du compositeur Raphaël Sendo, dont les œuvres tentent de révéler une certaine animalité du son, une non-domestication du son, selon ses dires. L'occasion de revenir avec lui sur ses recherches esthétiques qui ont chamboulé, dans les 20 dernières années, les frontières entre noise, punk et musique écrite contemporaine. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre site internet où vous pourrez également podcaster cette émission. Chers écoutants.
Si je fais 1, Tangalam, 1, para, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, para, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà.
France Musique, il est minuit, je passe la main à Anne Montaron et Création Mondiale.
À réécouter sur francemusique.fr.